Sur le programme, il est écrit « Et qui est mon prochain ?» Qui est mon prochain ? C'est une pensée d'un docteur de la loi posée à Jésus. L'être humain, l'enfant, quel que soit son âge, se pose des questions. Et dans la parole de Dieu, les questions qui étaient posées à Jésus, suite aux questions que se posaient soit les soldats, ou autres, ce sont exactement les mêmes questions que nous pouvons nous poser. Questions dont nous avons des réponses et questions dont nous sommes encore en attente de réponses. Parfois, c'est à cause de notre ignorance. Et l'ignorance est le plus grand obstacle à la foi. Parfois parce que nous avons reçu une éducation religieuse et nous n'avons point été dans les profondeurs de la parole de Dieu. Nous l'avons lue, nous en avons tiré nous-mêmes une explication. Et nous nous sommes dit, c'est bien. Parce que notre explication pouvait venir de quelques personnes qui, suite à une conversation, nous les avons écoutées. Alors tant de choses, aussi bien pour les enfants, pour les jeunes, qui vont en cours, qui vont aussi écouter le professeur de philosophie. Et donc, on arrive à essayer de faire une synthèse de tout cela. Et qui est mon prochain ? Dans l'évangile de Luc, chapitre 10e, un docteur, verset 25e. Évangile de Luc, chapitre 10e, verset 25e. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain ? Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 13e. Chapitre 13e, verset 8e. ne devait rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Si nous lisions aussi dans les évangiles de Matthieu chapitre 19e verset 16e et aussi dans l'évangile de Marc chapitre 9e et verset 17e, vous voyez encore les mêmes pensées du jeune homme qui, dans son sérieux, accouru et se jetant à genoux devant lui, lui dit « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et là, le Seigneur ne va pas lui demander qui lis-tu dans la loi, mais le Seigneur va faire lui-même la réponse. Et puis ce jeune homme répondit au Seigneur, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et Jésus, l'ayant regardé, l'aima. On voit cette relation du regard de Jésus qui, par son regard, manifeste son amour. Je crois que c'est la prière de Jésus à l'égard de Pierre qui l'a sauvé et lorsqu'il a renié son maître. Mais il y a quelque chose d'impressionnant qui est écrit, c'est que Jésus regarda Pierre. Le regard de Jésus est un regard qui attire. La Bible nous dit que Jésus n'avait ni beauté, n'avait rien pour nous plaire, pour attirer nos regards. Et il va révéler à cet homme, à ce jeune homme, il te manque une chose. C'est pas beaucoup une chose, une seule chose. Et Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, c'est-à-dire donne-le à ton prochain, donne-le au prochain. Et que nous dit la Bible? Eh bien, que ce jeune était profondément attristé, et puis Jésus lui a demandé de le suivre, mais il est parti tout triste, car il avait de grands biens. Jésus ne demande à aucun de nous, devant nos biens, et d'aller les distribuer sur la place publique. La preuve, ce jeune homme ne l'a pas fait. Mais Jésus a montré, et volontairement, il ne lui a pas parlé du prochain dans cette énumération. Et un autre passage de la Bible, Jésus parle du prochain. Et il est reparti aussi tout triste. Regardez le prochain. Qui est mon prochain? Posez-vous cette question à vous-même. Dieu est le créateur de chaque humain. Et qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Répondez à vous-même. Qui est mon prochain? Mon prochain, c'est qui? C'est une question que le docteur de la loi s'est posée. Et qui est mon prochain? L'apôtre Paul va dire dans son épître aux Romains, comme nous l'avons lu, chapitre 13e et verset 8e, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. S'aimer les uns les autres, c'est facile. N'avons aucun effort à faire d'aimer celui qui nous aime. Je n'ai aucun effort à faire d'aimer celui qui m'aime. Où il faut faire l'effort, c'est d'aimer celui qui ne m'aime pas. Mais je ne peux pas penser un seul instant cet après-midi en vous regardant que vous ne m'aimez pas. Et vous ne pouvez pas penser un seul instant dans votre tête que je ne vous aime pas. C'est une histoire d'amour. Et c'est Dieu qui nous révèle cette histoire d'amour, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Et Paul va reprendre et énumérer tout ce que j'ai pu lire. Et il dit aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour ne fait pas de mal au prochain. Et si chaque être humain de la planète se posait la question « Et qui est mon prochain ?» et ajoutant « Tu l'aimeras comme toi-même » et l'amour ne fait point de mal au prochain. Vous avez remarqué que c'est le prochain qui fait du mal à son prochain. Nous avons donc besoin d'être amené à la réflexion par ces différentes lectures, qui est mon prochain? On remarque Jésus qui lui connaît parfaitement la loi, les commandements, il connaît tout, il n'a fait aucune classe rabbinique. Il n'a jamais été élevé ni reçu son éducation auprès d'un Nicodème ou d'un autre rabbin. Jésus est parfaitement Dieu et parfaitement homme. Quand Jésus parle au jeune homme, Jésus fait lui-même la lecture en quelque sorte. Mais pour le docteur de la loi, qui est venu pour le piéger, Jésus le ramène à ce qu'il est en train d'enseigner. Car en réalité, ce que le docteur lisait, c'est ce qu'il enseignait dans les synagogues ou dans la synagogue. Vous vous souvenez, à ce docteur de la loi Nicodème, Jésus lui dit, mais toi qui es un docteur, qui es le docteur, tu ne sais pas ces choses. Et pourtant, il l'enseignait. Et les hommes et les femmes qui l'enseignaient, eh bien, acceptaient cet enseignement. Regardez le privilège, quand nous sommes bébés, on nous enseigne. On ne fait que ça. Que ça. Si vous regardez avant votre naissance, le bébé, il est avant la naissance, le bébé il est déjà fiché, il est déclaré, il a ceci, il a cela, et dès qu'il est sorti du sein de sa maman, voilà, encore le prénom, ceci, cela et cela. Et on sait que lorsqu'on a un enfant, on sait qu'on l'a jusqu'à 25 ans à la maison. Donc, c'est toujours de l'éducation qu'il nous faut faire. L'éducation religieuse, l'éveil de la foi, on passe beaucoup de temps. Et c'est tout à fait normal. Et on redit sans cesse les mêmes choses. On est passé par le même chemin. Mais ce que Jésus voulait dire aussi à ses docteurs, les personnes que vous enseignez, eh bien, croient en vous et se posent les mêmes questions. La différence, c'est que vous avez la clé. Vous savez très bien qu'en réalité, ce que vous enseignez n'est pas conforme. Vous avez annulé la parole de Dieu pour établir votre propre tradition, la tradition des hommes. Vous avez aussi établi votre philosophie religieuse. Et quand on vient à l'Évangile, à l'écoute de la parole de Dieu, on s'aperçoit que ce n'est pas le même évangile qu'on nous a enseigné lorsque nous étions gosses, lorsque nous étions dans une religion qui a été religion d'État ou autre religion. L'enseignement est quelque chose de profond. Elle va façonner notre vie. Et selon l'enseignement que je vais communiquer, eh bien, je dois savoir que les personnes vont mettre cet enseignement en pratique et qu'elles n'ont pas le droit à l'erreur dans leur vie. Quand Jésus dit, le livre des Proverbes, il est écrit, instruis l'enfant, donne-lui l'instruction. Pourquoi ? Parce que l'instruction, elle oriente. Demandez à un enfant qui a 11-12 ans, qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Eh bien, vers les années 50, on demandait à un enfant, qu'est-ce que tu veux faire ? Il n'avait pas le droit de dire, je ne sais pas. Parce que les enfants commençaient à travailler à 8-9 ans. On les faisait travailler à 8-9 ans. Dans notre nation. Et l'école est devenue obligatoire jusqu'à 14 ans. Mais un enfant qui avait 8, 9, 10, 11 ans, eh bien, il devait savoir ce qu'il allait faire. Qu'est-ce que tu vas faire ? Eh bien, parce que l'enfant à 14 ans, il quittait la maison. Soit qu'il allait devenir tel en telle corporation, soit qu'il allait faire telle chose, mais on ne parlait pas d'études. C'était un privilège d'aller étudier jusqu'à 18, 19 ans. On ne parlait pas d'études. Et quand on avait le certificat d'études primaires et le brevet sportif populaire, on pouvait être fier. Parce que celui qui n'avait pas son certificat d'études, il avait un mal terrible à avoir du travail. C'est l'histoire. C'est notre histoire. Alors quand on demande à un enfant qui a 11, 12 ans, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, je sais pas. Ben voilà, je sais pas. Et pourtant, il a déjà un bon bagage. Je ne sais pas. Et puis, ils arrivent des fois 22, 23 ans, ils ont encore un très, très bon bagage. Et ils se disent, ben tu sais, papa, ça va te contrarier, maman aussi. Mais te fâche pas, papa. C'est la société qui veut cela. Je prends une autre orientation. Moi, j'ai eu mes enfants, je leur disais, il faut les diplômes, il faut travailler. On n'obtient rien, si on ne travaille pas, on n'obtient rien dans les diplômes. Mais j'ai dit, une fois que vous avez vos diplômes, si vous changez, c'est votre problème, c'est plus le mien, c'est plus ma responsabilité. Ce qui veut dire que l'enseignement va orienter l'enfant. Mais pas lorsqu'il va avoir 17, 18 ans, mais dès que son enfance... Dès que son enfance, vous avez remarqué, l'enfant, terrain vierge, certes, avec cette nature pécheresse, mais en réalité, il croit, il vit ce que vous lui enseignez. Il enseigne, il est heureux. Nous, quand c'était la rentrée, nous étions heureux. Nous retrouvions à nouveau toute la famille réunie et puis on demandait aux enfants, ça s'est bien passé? Qu'est-ce que vous avez un professeur? Vous avez un instituteur? Une institutrice? Vous avez ceci, cela? Oui, c'est bien, c'est formidable. C'est extraordinaire, il nous a bien expliqué. Et on est heureux. Et est-ce que vous demandez à vos enfants... Lors des enfants, comment ça s'est passé? Parce que les enfants qui vont à l'ordre des enfants, moi j'ai remarqué pour les nôtres et pour les vôtres, ils avaient autant de respect que pour leur monitrice, que pour leur instituteur, professeur des écoles. C'est important l'enseignement. C'est important l'enseignement. C'est important d'être enseigné selon la parole de Dieu. Et qui est mon prochain? Dit le docteur de la loi pour éprouver Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, dans sa humanité, il est juif. Le salut vient des juifs. Marie était une juive. Donc, le docteur met Jésus sur le même pied d'égalité. Vous vous souvenez, Nicodème, qui dit à Jésus, « Tu es un docteur, tu es un enseignant, parce que les miracles qui t'accompagnent, Dieu est avec toi. » Et donc, c'est une relation de docteur à docteur, docteur de la loi et docteur de la loi, sur le même pied d'égalité. Et qui est mon prochain? C'est un juif, le docteur de la loi. Eh bien, puisque toi, tu es juif, montre-moi qui est ton prochain, parce que tu as exactement les mêmes valeurs. Tu crois ce que je crois. Qui est mon prochain? Ça, c'est important. Vous souvenez quand Luc, pas docteur de la loi, mais le docteur médecin, le bien-aimé, lui qui voyageait avec Paul, quand je posais la question un mardi soir, il me semble, qui a écrit le livre des Actes des Apôtres? Alors certains ont dit « c'est un tel », certains disent « c'est un tel », »,« c'est un tel », »,« c'est un tel ». Puis à la fin, ils ont compris que c'était Luc. Et quand Luc commence le livre des Actes des Apôtres, il commence par Théophile, son excellence. Et on s'aperçoit que quand il écrit l'évangile de Luc, c'est son évangile, il sait qu'il y a d'autres qui ont composé aussi pour des écrits, mais il dit « moi aussi, je me suis mis à faire des recherches auprès des témoins oculaires » et il l'envoie à Théophile, son excellence, afin que ce que tu as reçu comme enseignement, que tu aies vraiment des certitudes. Et le livre des Actes des Apôtres, il est dédié Théophile en premier lieu, pour que tu aies des enseignements fermes, inébranlables. Qui est mon prochain ? Eh bien, pour le prochain, pour le juif, eh bien, c'est le juif. En dehors du juif, pas de prochain. Pas de prochain. C'est-à-dire, le païen, c'est un païen. Pierre le dira. Vous savez qu'on ne se lit pas ensemble, qu'on ne mange pas ensemble, qu'on ne s'accueille pas dans les maisons. C'est le prochain, nous ne l'acceptons pas. Le prochain, c'est le juif. Pas d'autre. Et pour le païen, le prochain, c'est le prochain. Et nous pourrions faire exactement la même chose. Avec toutes les nations, pratiquement 200. Qui est mon prochain ? Est-ce que telle nation, c'est mon prochain ? Est-ce qu'encore telle nation, c'est mon prochain ? Est-ce qu'encore telle nation, c'est mon prochain ? C'est la question qu'on peut se poser cet après-midi. Est-ce que les nations qui forment l'Europe, c'est mon prochain ? Est-ce que telle partie dans telle partie du monde, c'est mon prochain ? C'est terrible. Un jour, un homme était interrogé sur la télévision à quelques milliers de kilomètres d'ici et j'étais outré. Et quand on lui pose la question sur telle personne dans le pays, il dit « regardez ces hommes, ces gens, ils ont la tête d'un animal. Mais vous êtes choqués. Comment on peut dire d'un homme, quelle que soit sa langue, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa nationalité, regardez, pire qu'un animal. À partir de là, l'être humain ne respecte plus son prochain. C'est là le problème. Lorsque vous avez des enseignements qui vous disent « si tu fais cela et cela, tu iras à tel endroit », vous ne respectez même plus votre prochain. Parce que dit la Bible ? L'amour ne fait point de mal au prochain. Et l'apôtre va énumérer ce qui peut faire du mal au prochain. L'adultère, tuer, dérober, convoitise, etc., etc. Tout cela, ça fait du mal au prochain. Au prochain. Qui est mon prochain ? Et pour l'Église de Jésus-Christ, de par le monde entier, qui est mon prochain ? Qui est mon prochain ? Et pour nous, cet après-midi, qui est mon prochain ? Eh bien, Jésus nous répond, le prochain, c'est chaque homme, chaque femme, chaque être humain. Apprenons à nos enfants ce qu'est le prochain. Apprenons aussi ce qu'est notre prochain. Et Jésus nous révèle que le prochain doit être aimé. Aimé de l'amour de Dieu. Un jour, je partais en mission nous partions. Et puis nous étions dans le métro avec mon épouse et notre fils qui avait 2 ans. Et tout à coup, j'ai vu un homme d'une laideur indescriptible. Et j'ai entendu cette voix intérieure. Tu ne seras pas capable de les aimer. Et tout de suite, intérieurement, dans ce métro, dans cette rame, j'ai dit au Seigneur, donne-moi l'amour pour chaque créature. Chaque créature. Et l'Esprit de Dieu a donné cet amour à mon cœur. Et c'est l'Esprit de Dieu qui, en réalité, nous donne l'amour pour aimer, pour servir, pour fortifier notre prochain. Qui est mon prochain? Alors Jésus ne va pas partir dans une question théologique, mais dans quelque chose de pratique. Et il va montrer qu'en réalité, par le moyen d'une image, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem, ville bénie. Jéricho, ville maudite. Vous vous souvenez, lorsque la ville de Jéricho fut détruite, quel est l'homme de Dieu qui a prononcé une malédiction, non pas sur la ville, mais Dieu avait dit qu'elle ne serait plus jamais reconstruite, et si elle l'était, ça serait pour deux raisons. Celui qui rebâtirait subirait un jugement de Dieu. Maudit soit l'homme qui en posera les fondements, ça sera au prix de telles choses. Maudit soit l'homme qui reconstruira, ça sera au prix de telles choses dans sa famille. Eh bien, il y a un homme qui s'est permis de relever le défi de Dieu. Et il a perdu ses 2 personnes dans sa famille chère. Il y a des véritables défis qui sont dressés et que l'on peut dresser devant Dieu. Jésus parle de Jéricho, ville aussi agréable, ville des palmiers. Dieu n'avait pas maudit la ville, mais simplement celui qui allait jeter le défi à Dieu. Dieu n'a pas maudit le monde. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé l'homme. Et Jéricho était une ville de repos. Alors cet homme qui descend de Jérusalem, il est dépouillé. Les brigands sont là, tombent à terre, le dépouillent, le rouèrent de coups, et puis ils s'en vont le laissant à demi-mort. C'est quelque chose de terrible de laisser quelqu'un comme cela. Et puis, la Bible nous montre qu'un homme religieux descend lui aussi de Jéricho. Pardon, de Jérusalem à Jéricho. Et il voit cet homme. Mais il fait celui qui ne le voit pas. Il l'évite. Un deuxième passe. Il fait celui qui ne le voit pas, il l'évite. C'est terrible lorsque la religion vous évite. C'est terrible lorsque les hommes religieux vous évite. C'est quelque chose de dramatique. La Bible nous montre qu'un Samaritain Jésus n'est pas le Samaritain, mais Samarie et aussi Jérusalem, c'était l'hostilité. On ne s'aimait pas. Et le Samaritain va s'arrêter. On n'est pas toujours pressé pour s'arrêter. Je me souviens, je suis arrivé à Paris à l'âge de 18 ans. Je me suis trouvé une chambre et j'ai vécu pendant un temps à Paris. Ça remonte loin. Mais quand j'ai vu des gens qu'on appelait les clochards, je les voyais à terre. J'avais l'impression qu'ils étaient morts. Et je voulais presque appeler tout de suite les pompiers. Vous savez, il y avait cela. Aujourd'hui, on est habitué à voir cela. Non point les clochards, il n'y en a plus, mais des sans domicile fixe. Des gens qui sont dans notre ville, qui nous demandent l'aumône. Non merci. Non merci. Et on se fait parfois insulter, peu importe. Mais aujourd'hui, on voit le prochain qui est à terre. Quand l'apôtre Paul arrive à Corinthe et qu'il voit tout ce que ce monde est à terre par la philosophie, ses enseignements, ses fruits, la débauche, tous ces gens qui sont à terre, Paul, il les voit. Dieu les voit. Jésus-Christ les voit. Et Paul, il a quelques difficultés avec la parole. Paul aussi, c'est pas l'homme qui attire. Il n'a pas ce charisme. Les Corinthiens lui reprocheront. Tes lettres nous font trembler. Mais quand tu es au milieu de nous, tu parles pas tellement bien. Tu parles pas comme les philosophes. Dis, je suis venu avec crainte et tremblement. Mais je vous ai prêché Christ, crucifié, Christ ressuscité. Et tous ces gens dont vous ne faisiez aucun cas dans la société, eh bien Dieu les a relevés. Et c'est ça qui est important. Bien d'hommes et de femmes, de par le monde, on ne fait plus cas de bien des hommes et des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles, mais Dieu lui prend soin. Et le Samaritain, même s'il n'y a pas de religion, de relation, il s'arrête. Regardez un homme qui est tombé à terre. Est-ce que le docteur, quand il arrive, il lui dit, mais papier d'identité, passeport, faut que je voie votre religion. Est-ce qu'il fait ça? C'était peut-être aux années 56-57. Je suis invité, je ne sais plus comment, j'étais jeune, j'étais ado, et je vais aux 24 heures du Mans. Puis, on arrive dans une ville, et tout à coup, juste avant d'arriver dans une ville, il y avait des gros arbres, et quelqu'un, un monsieur, avait manqué le virage, son véhicule s'est jeté dans l'arbre, et la personne qui était à côté de lui, la porte s'est ouverte, et elle est tombée, elle est morte, elle était tuée sur le coup. Alors nous, gamins, on s'est approchés. C'était la première fois peut-être qu'on voyait un mort. Ça nous a fait tout drôle. Tout drôle. Et ce qui nous a choqués, c'est que la police, la gendarmerie, s'est déplacée en Solex. C'était l'époque. Mon grand-père, cavalerie, lui, était gendarme. Donc, c'était l'époque comme ça. docteur parfois en mobylette, vélo, voiture. C'était l'époque. Et moi, je suis choqué parce que le policier dit au chauffeur, en arrivant, « papier ». Ça m'a choqué. Mais il pouvait faire que ça, il était formé que pour ça. Vous comprenez ? Que pour ça. Il ne pouvait pas faire le bon samaritain. Et le bon samaritain ne lui demande pas « d'où viens-tu ?» Il le reconnaît que c'est un juif dans son image. Mais lui, le samaritain, il sait que c'est son prochain. Il s'arrête. Il regarde ses plaies. Il les soigne. Il prend le temps. Il le met sur sa monture. Il l'emmène à l'autel. Il paie. Il dit « Je vais revenir et je paierai ». Vous ne trouvez pas qu'il y a certaines choses qui sont difficiles ? C'est de mettre la main au portefeuille. C'est difficile de mettre la main au portefeuille. Non ? Sauf quand vous payez vos impôts, on ne vous demande pas, on met la main dans votre portefeuille. On vous fait la poche. Ou on vous fait les poches. Mais c'est difficile de mettre la main à la poche. Un jour, il y avait un chrétien, c'était un cultivateur. C'est une histoire vraie. Donc, il avait été prêt pour au baptême. Et puis, ah, il dit au pasteur, « Attendez, il faut que je retire mon portefeuille. » Elle était dans sa... pour son baptême, là, sa robe de baptême. Et le pasteur lui dit, « Non, il faut que le portefeuille soit baptisé. » Et oui, oui. Il faut que le portefeuille soit baptisé. C'est difficile, hein ? C'est difficile. C'est difficile de s'approcher. Les mains vides. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous fasse grâce. C'est difficile. C'est difficile. Et pourtant, cet homme prend le temps. Prends le temps. Bien-aimé, Jésus termine et lui dit « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain ?» Le prochain, c'est celui qui est tombé. Et celui qui s'arrête, s'arrête pour son prochain. Et je deviens le prochain de mon prochain. C'est-à-dire que je ne peux pas rejeter mon prochain. Parce que mon prochain, c'est vous. Et vous, votre prochain, c'est moi. Et l'amour ne fait pas de mal à son prochain. Non pas seulement en acte, mais avec la langue. Elle bénit son prochain. Elle fait du bien. Elle encourage. Si chacun sur la planète prenait conscience de son prochain et que l'amour ne fait pas de mal à son prochain, les choses changeraient. Et Jésus est mort sur la croix pour son prochain, pour le prochain, pour chaque être humain. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne sa grâce, sa bénédiction, et réfléchissez, et qui est mon prochain ? Que Dieu vous bénisse. Seigneur notre Père céleste, nous te remercions parce que ton amour nous émerveille. Nous reconnaissons que la croix du calvaire n'est pas une erreur. Mais c'est toi qui as voulu que ton Fils meure sur la croix. Pour nous réconcilier avec toi, nous te sommes reconnaissants de nous avoir fait grâce, d'avoir porté un regard favorable sur notre cœur qui était brisé, sur nos blessures intérieures, nos blessures extérieures. Tu nous as fait grâce, Seigneur. Merci pour ta parole qui a éclairé nos yeux. Merci pour ta parole qui a réchauffé notre cœur. Merci pour les grâces et remplis-nous, renouvelle-nous, Seigneur. Et que tu fasses du bien, que tu réchauffes notre cœur à l'égard du prochain. Que ton nom soit glorifié, adoré à tout jamais. Amen. Amen. Nous allons chanter, et si quelqu'un a besoin, approchez-vous. Amen.